En mai 1950, les puissants du jour décidèrent qu'il fallait recouvrir le toit de la fabrique de plaques d'une nouvelle couche de goudron. Ils voulaient que ce soit fini avant qu'il fasse trop chaud et ils ont demandé des volontaires. Il devait y avoir une semaine de travail. Plus de 70 hommes se sont proposés. Travailler à l'extérieur au mois de mai, c'est ce qu'il y a de mieux. 9 ou 10 noms ont été tirés au sort. Et parmi eux, celui d'Andy est le mien. Pendant une semaine, on nous ferait sortir en rang de la cour après le petit déjeuner, deux gardiens devant nous et deux derrière, plus tous les gardes des Miradors gardant un œil exercé sur l'opération, avec des jumelles pour faire bonne mesure. 4 d'entre nous devaient porter une grande échelle double. Dickie Betts, qui faisait partie de l'équipe, me faisait rire chaque fois en appelant l'échelle une extensible, et l'appuyer au bâtiment long et plat. Ensuite, on ferait la chaîne pour trimballer des seaux de goudron brûlant sur le toit. S'en renverser dessus signifiait danser la danse de Saint-Guy jusqu'à l'infirmerie. 6 gardes faisaient partie du projet, tous choisis à l'ancienneté. C'était presque une semaine de vacances. Au lieu de transpirer dans la blanchisserie ou dans la fabrique de plaques ou de surveiller un groupe de tôlards coupant des broussailles dans un trou, ils se doraient la pilule, assis contre le parapet, et se racontaient des conneries sans arrêt. C'est tout juste s'ils devaient garder l'œil sur nous. Le mirador du côté sud était si près que de là-haut les types auraient pu nous cracher leur chic dessus, s'ils l'avaient voulu. Si un membre de notre brigade d'étanchéité faisait le moindre geste déplacé, il serait coupé en 2 en 4 secondes par des balles de mitrailleuse. Alors les matons restaient assis et prenaient leurs aises. Ils n'avaient besoin que d'un pack de bière dans de la glace pilée pour être les seigneurs de toute la création. L'un d'eux s'appelait Byron Hadley, et en l'an 1950, il avait passé plus de temps que moi à Shawshank. Plus que les 2 derniers directeurs mis bout à bout, en fait. Cette année-là, le type qui menait la ronde était un Yankee à l'air pincé, George Dunahy, diplômé d'administration pénitentiaire. Personne ne l'aimait, pour ce que j'en voyais, sauf ceux qu'il avait nommés à son poste. J'avais entendu dire qu'il ne s'intéressait qu'à 3 choses. Compiler des statistiques pour un livre, publié plus tard par une petite boîte de la Nouvelle-Angleterre appelée Lightside Press, probablement un compte d'auteur. L'équipe qui remportait le championnat intramuros de basket en septembre et faire rétablir la peine de mort dans le Maine. Un vrai fan de la peine de mort, ce George Dunahy. Il a été viré en 1953, quand on a su qu'il faisait réparer des voitures à bas prix dans le garage de la prison, partageant les bénéfices avec Byron Hadley et Greg Stamas. Hadley et Stamas s'en sont bien tirés. Ils avaient la vieille habitude de couvrir leurs arrières. Mais Dunahy a dû se barrer. Personne ne l'a regretté, mais personne non plus n'a été vraiment ravi de voir Greg Stamas s'asseoir dans son fauteuil. C'était un petit mec, dur, tendu, avec les yeux bruns les plus froids qu'on puisse voir. Il avait toujours un petit sourire douloureux, grimaçant, comme s'il devait aller aux toilettes et n'y arrivait pas. Pendant son règne, les brutalités se sont multipliées, et sans avoir de preuves, je crois qu'il y a eu peut-être une demi-douzaine d'enterrements clandestins dans le coin de forêt rachitique à l'est de la prison. Dunahy ne valait rien, mais Greg Stamas était un scélérat cruel et sans cœur. Byron Hadley et lui étaient bons amis. En tant que directeur, Dunahy n'était qu'une potiche. C'était Stamas, et à travers lui, Hadley, qui dirigeait Shawshank. Hadley était un grand type qui traînait les pieds, avec de rares cheveux roux. Il attrapait facilement des coups de soleil, il parlait fort, il vous descendait à la matraque si vous n'alliez pas assez vite à son gré. Ce jour-là, notre 3e jour sur le toit, il parlait avec un autre garde, un certain Murt Entwistle. Hadley avait reçu des nouvelles étonnamment bonnes, alors il râlait. C'était son style. Un homme impitoyable, sans un mot aimable pour quiconque, un homme convaincu que le monde entier était contre lui. Le monde lui avait volé les meilleures années de sa vie, et le monde ne demandait qu'à lui voler ce qui restait. J'ai vu des matons qui m'ont presque paru des saints, et je crois savoir pourquoi il y en a. Ce sont ceux qui peuvent faire la différence entre leur vie, si pauvre et difficile qu'elle soit, et celle des hommes qu'ils sont payés pour garder. Ces gardes sont capables de comparer des souffrances. Les autres ne le peuvent pas, ou ne le veulent pas. Pour Byron Hadley, il n'y avait rien à comparer. Il pouvait rester assis au frais, à l'aise sous le chaud soleil de mai, et avoir le culot de se plaindre de sa bonne fortune, pendant qu'une bande de types, à quelques pas, peinait, transpirait et se brûlait les mains en hissant d'énormes seaux pleins de goudron bouillant. Des hommes qui travaillaient déjà si dur, d'ordinaire, que cette tâche leur paraissait un répit. Vous vous souvenez de la question bateau, celle dont la réponse est censée définir votre attitude devant la vie? Pour Hadley, la réponse était toujours à moitié vide. Le verre est à moitié vide. Pour toujours et à jamais. Amen. Donnez-lui un verre de cidre bien frais, il parlera de vinaigre. Dites-lui que sa femme lui a toujours été fidèle, il répondra qu'elle est foutrement trop laide pour faire autrement. Il était donc assis, bavardant avec Meurthe & Whistle assez fort pour que nous puissions l'entendre, son large front blême commençant à rougir au soleil. Il avait une main posée sur le parapet qui entoure le toit, l'autre sur la crosse de son 38. On a tous profité de son histoire, en même temps que Meurthe. Il semblait que le frère aîné de Hadley était parti pour le Texas, il y avait environ 14 ans, et que depuis la famille n'avait plus entendu parler de ce fils de garce. Ils avaient tous pensé qu'il était mort, et bon débarras. Or, il y avait une dizaine de jours, un avocat leur avait téléphoné d'Austin. Il semblait que le frère était mort 4 mois avant, et qu'en plus il était riche.
« Foutrement incroyable la chance que peuvent avoir certains branleurs !»
dit ce parangon de gratitude sur le toit en terrasse. L'argent venait du pétrole et des concessions pétrolières, et il y avait presque 1 million de dollars. Non, Hadley n'était pas millionnaire, ce qui aurait pu le rendre heureux, au moins quelque temps. Mais le frère avait laissé un legs très convenable, 35 000 dollars à chaque membre de sa famille vivant dans le Maine qu'on pourrait retrouver. Pas mal. Comme d'avoir un coup de chance et de gagner aux courses. Mais pour Byron Hadley, le verre est toujours à moitié vide. Il a passé la matinée à se plaindre devant Meurthe de ce que ce foutu gouvernement allait lui piquer sur l'héritage.
« Ils vont me laisser de quoi acheter une voiture neuve », disait-il à regret. « Et qu'est-ce qui se passe alors? On doit payer des saloperies d'impôts sur la bagnole et les réparations et l'entretien. Il y a ces foutus gosses qui vous emmerdent pour les emmener faire un tour avec la capote baissée. Et pour la conduire, s'ils sont assez grands »,
a dit Meurthe. Le vieux Meurthe savait de quel côté sa tartine était beurrée, et il n'a pas dit ce qui était aussi évident pour lui que pour nous. « Si ce fric t'ennuie tellement, mon vieux Byron des familles, je vais tout simplement t'en débarrasser. Après tout, à quoi servent les amis ?»«
C'est ça, ils veulent la conduire, ils veulent apprendre à la conduire, bon Dieu !»
a dit Byron en frissonnant.
« Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année ? Si tu t'es gouré sur les impôts et si tu n'as plus de quoi payer le supplément, tu dois le payer de ta poche ou même l'emprunter à une de ces agences de youpin. Et de toute façon, il y a une vérification, quoi qu'il arrive. Et quand le gouvernement vérifie, il vous en prend toujours plus. Qui peut gagner contre Oncle Sam? Il vous met la main dans la chemise et vous pince le téton jusqu'au sang et on se retrouve perdant. Christ !»
Il est tombé dans un silence morose, pensant à la terrible malchance qu'il avait fait hériter de 35 000 dollars. Andy Dufresne passait le goudron avec une grande brosse à 5 mètres de là. Il a jeté sa brosse dans le seau et s'est avancé vers Meurthe et Hadley. On s'est figés, tous, et j'ai vu un des autres matons, Tim Youngblood, faire glisser sa main vers son étui à revolver. Un des types du Mirador a tapé sur le bras de son partenaire et ils se sont retournés. Un instant, j'ai cru qu'Andy allait se faire descendre, ou matraquer, ou les deux. Et alors, tout doucement, il a dit à Hadley, « Vous avez confiance dans votre femme ?» Hadley n'a fait que le regarder. Le sang commençait à lui monter au visage, et je savais que c'était mauvais signe. D'ici 3 secondes, il allait sortir son bidule et l'enfoncer droit dans le plexus solaire d'Andy, là où il y a tout un tas de nerfs. Taper trop fort à cet endroit peut tuer un type, mais ils visent tous là. Quand ça n'est pas mortel, ça vous paralyse assez longtemps pour oublier l'astuce que vous aviez en tête.
« Mon gars, » a dit Hadley, « je te donne une chance de ramasser ta brosse. Après, tu vas descendre du toit la tête la première. »
Andy l'a regardé, très calme, immobile, le regard glacé, comme s'il n'avait rien entendu. Et j'ai eu envie de lui dire comment sont les choses, de lui faire un cours express. Le cours express, c'est ne jamais laisser voir qu'on entend ce que disent les gardes, ne jamais essayer de s'insinuer dans leur conversation sans qu'on vous le demande. Et là, toujours leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre et la fermer. En prison, Qu'on soit noir, blanc, rouge ou jaune, peu importe. On a notre propre genre d'égalité. En tôle, chaque tôlard est un nègre et il faut se faire à cette idée si on veut survivre avec des types comme Hadley et Stamas, qui vous tueraient aussi facilement qu'ils vous regardent. Quand on est au trou, on appartient à l'État. Malheur à qui l'oublie. J'ai connu des hommes qui ont perdu la vue, d'autres qui ont perdu des doigts et des orteils. J'ai connu un homme qui a perdu le bout de son pénis, content de s'en être tiré à si bon compte. Je voulais dire à Andy qu'il était déjà trop tard. Il pouvait toujours faire marche arrière et ramasser sa brosse. Il y aurait tout de même un gros bras à l'attendre ce soir dans les douches, prêt à lui ratatiner les deux jambes et le laisser se tortiller sur le béton. On pouvait se payer un contrat de ce genre pour un paquet de clopes ou trois baby Ruth. Surtout, je voulais lui dire de ne pas rendre les choses pires qu'elles n'étaient déjà. Ce que j'ai fait, c'est continuer à passer du goudron sur le toit comme si de rien n'était. Je cherche d'abord à garer mon cul, comme tout le monde. Il faut bien. Il est déjà entamé. Et à Shawshank, il y a toujours eu des Hadley disposés à finir le boulot. Je m'exprime peut-être mal. Que vous ayez ou non confiance en elle est sans importance. Le problème, c'est si vous pensez qu'elle peut agir dans votre dos. Vous faire un coup de jarnac. Hadley s'est levé. Meurt s'est levé. Tim Youngblood s'est levé. Hadley avait le visage aussi rouge qu'une caserne de pompiers.
« Ton seul problème, » a-t-il dit, « c'est de savoir les os qui te restent et qui sont intacts. Tu pourras les compter à l'infirmerie. Allons-y, Meurt. On jette ce connard par-dessus bord. »
Tim Youngblood a sorti son revolver. On a continué à goudronner comme des fous. Le soleil tapait. Ils allaient le faire. Hadley et Meurt allaient simplement le jeter par-dessus le parapet. Un terrible accident. Dufresne, détenu 81 433 SHNK, a glissé sur l'échelle en descendant des seaux vides. Regrettable. Ils l'ont pris. Meurt a pris le bras droit, Hadley le gauche. Andy n'a pas résisté. Son regard n'a jamais quitté le visage rouge et chevalin de Hadley. « Si elle est à votre botte, monsieur Hadley, » a-t-il dit de la même voix, calme, tranquille. « Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez avoir cet argent jusqu'au dernier cent. Score final, monsieur Byron Hadley, 35 000. Oncle Sam, que dalle. » Meurt l'a traîné vers le bord. Hadley n'a pas bougé. Un instant, Andy a eu l'air d'une corde qu'ils auraient tirée chacun de leur côté.
« Attends une seconde, Meurt, » a dit Hadley. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon gars ?»«
Je veux dire que si votre femme est à votre botte, vous pouvez le lui donner. » »«
Tu ferais mieux de parler en clair, mon gars, ou tu vas en bas. »
Le gouvernement autorise un don entre époux, un don unique, avec un plafond de 60 000 dollars.
Hadley fixait maintenant Andy, l'air d'avoir reçu le ciel sur la tête.
« Non, pas possible, »
a-t-il dit.
« Sans impôt ?»«
Sans impôt. L'IRS ne peut pas prendre un cent. »«
Comment tu saurais un truc pareil ?»«
Il était banquier avant, Byron, » a dit Youngblood. « Suppose qu'il pourrait... »«
Ferme ta gueule, la truite !»
a dit Hadley sans le regarder. Youngblood a rougi et s'est tu. Certains gardes l'appelaient la truite à cause de ses grosses lèvres et de ses yeux globuleux. Hadley fixait toujours Andy.
« T'es ce petit malin de banquier qui a tué sa femme. Pourquoi je croirais un petit malin comme toi? Pour me retrouver ici à casser des cailloux en même temps que toi? T'aimerais ça, n'est-ce pas ?»
Andy, toujours calme, « Si vous étiez condamné pour fraude fiscale, vous iriez dans une prison fédérale, pas à Shawshank. Mais vous n'irez pas. Le don entre époux exonéré d'impôts est une échappatoire juridique parfaitement légale. J'en ai fait des douzaines. Non, des centaines. » C'est destiné principalement aux gens qui ont de petits commerces à léguer ou à ceux qui ont un héritage inespéré, comme vous.
« Je crois que tu mens, »
a dit Hadley. Mais c'était faux. On voyait que c'était faux. Une émotion naissait sur son visage. Quelque chose de grotesque sur cette longue et laide figure surmontée d'un front fuyant et rougi par le soleil. Une émotion presque obscène sur les traits de Byron Hadley. L'espoir. « Non, je ne mens pas. » Vous n'avez pas besoin non plus de me croire sur parole. Engagez un avocat.
Ces enculés de bandits d'assassins d'enfants,
s'est écrié Hadley. Andy a haussé les épaules.
Alors allez voir l'IRS. Ils vous diront la même chose gratuitement. En fait, vous n'aviez même pas besoin que je vous le dise. Vous auriez fait votre enquête vous-même.
Putain de merde. J'ai pas besoin d'un petit malin de banquier assassin pour me montrer comment chier dans le trou.
Vous aurez besoin d'un fiscaliste ou d'un banquier pour rédiger l'acte, et cela vous coûtera quelque chose, a dit Andy. Ou bien, si cela vous intéresse, je serai heureux de vous le rédiger presque pour rien. Le prix serait de 3 bières pour chacun de mes collaborateurs.
Collaborateur !
A dit Meurt en éclatant d'un rire rouillé. Il s'est donné une claque sur le genou. Très fort pour se claquer les genoux, le vieux Meurt. Et j'espère qu'il est crevé d'un cancer à l'intestin dans un coin de la planète où on n'a pas encore découvert la morphine.
Collaborateur ! C'est pas joli ! Collaborateur ! T'as vraiment pas...
Ferme ta putain de gueule !
A grondé Hadley. Et Meurt l'a fermé. Hadley a regardé Andy.
Qu'est-ce que tu disais ?
Je disais que je demanderais seulement 3 bières pour chacun de mes collaborateurs, si cela vous paraît honnête. Je crois qu'un homme se sent encore plus un homme quand il travaille dehors au printemps, s'il peut boire une bouteille bien mousseuse. Ce n'est que mon opinion. Ça descendrait tout seul, et je suis sûr qu'il vous en serait reconnaissant. J'en ai reparlé avec quelques-uns de ceux qui étaient sur le toit ce jour-là. Rémi Martin, Logan Saint-Pierre et Paul Bonsaint. Ça fait 3. Et nous avons tous vu la même chose à ce moment. Senti la même chose. D'un seul coup, c'était Andy qui avait le dessus. Hadley avait le revolver à la ceinture et le bidule à la main. Hadley avait son ami Greg Stamas derrière lui et toute l'administration de la prison derrière Stamas. Toute la puissance de l'État derrière tout ça. Mais tout d'un coup, dans la lumière dorée du soleil, ce n'était plus rien. Et j'ai senti mon cœur bondir dans ma poitrine. Comme il ne l'avait plus jamais fait depuis que le camion m'avait fait franchir le portail avec 4 autres types, jadis en 1938, et que j'étais descendu dans la cour de la prison. Andy regardait Hadley de son œil froid, calme et clair. Il ne s'agissait plus seulement des 35 000 $, on a tous été d'accord. Je l'ai rejoué sans arrêt dans ma tête, et je le sais. C'était d'homme à homme. Et Andy l'a tout simplement forcé, tout comme un homme fort peut forcer le bras d'un faible à plier jusqu'à la table dans un bras de fer. Voyez-vous, il n'y avait aucune raison pour que Hadley, à cet instant précis, ne fasse pas signe à Meurt de basculer Andy la tête en avant, tout en profitant de son conseil. Aucune raison. Mais il ne l'a pas fait.
« Je pourrais vous donner 2 bières chacun si je voulais, » a dit Hadley. « 1 bière, c'est bon quand on bosse. »
Ce prodigieux connard a même réussi à prendre un air magnanime. « Je vous donnerai un seul conseil, parce que l'IRS n'en prendrait pas la peine, » a dit Andy, fixant Hadley sans ciller. « Faites ce don à votre femme si vous êtes sûr d'elle. Si vous croyez qu'il y a une chance pour qu'elle vous double ou vous fasse un enfant dans le dos, on pourrait trouver autre chose. »«
Me doubler ?»
aboya Hadley.
« Me doubler, moi ! Monsieur le banquier flingueur, même si elle avait bouffé un wagon de laxatif, elle n'oserait pas péter sans ma permission. »
Meurt, Youngblood et les autres matons s'esclaffèrent consciencieusement. Andy n'eut pas l'ombre d'un sourire. « Je vais noter les formulaires dont vous avez besoin, » a-t-il dit. « Vous les trouverez à la poste. Je les remplirai et vous pourrez les signer. » C'était assez ronflant pour que Hadley bombe le torse. Ensuite, il nous a foudroyés du regard en hurlant.
« Vous, les macaques, qu'est-ce que vous regardez ? Remuez-vous le cul, mon Dieu !»
Se retournant vers Andy,
« Tu vas venir avec moi, le flingueur. Et écoute-moi bien, si tu me fais un tour de juif, tu vas te retrouver à cavaler après ta tête dans les douches, c'est avant la fin de la semaine. »«
Oui, je comprends, » a dit Andy doucement. Et il comprenait. Vu comme ça s'est passé, il comprenait bien mieux que moi, que n'importe lequel d'entre nous. Voilà comment, l'avant-dernier jour du chantier, l'équipe de forçats qui goudronnait le toit de la fabrique de plaques en 1950 s'est retrouvée assise en rang à 10 h un matin de printemps, buvant des Black Labels apportés par le maton le plus coriace qui ait jamais fait une ronde au pénitencier de Shawshank. La bière était tiède comme de la pisse, mais c'était quand même la meilleure bière que j'ai jamais bue. On était assis, on buvait, on sentait le soleil sur nos épaules, et l'expression de mépris amusé de Hadley, comme s'il voyait des singes en train de boire, pas des hommes, n'arrivait même pas à gâcher ce moment. Elle a duré 20 minutes, cette pause bière, et pendant 20 minutes, nous avons eu l'impression d'être des hommes libres, comme si on buvait de la bière en goudronnant le toit de notre propre maison. Andy, seul, Ne buvez pas. Je vous ai déjà parlé de sa façon de boire. Il est resté accroupi à l'ombre, les bras ballants entre ses genoux, en nous regardant avec un léger sourire. Prodigieux, le nombre de types qui se souviennent de lui comme ça. Le nombre de types qu'il a dû y avoir dans cette équipe le jour où Andy Dufresne a affronté Byron Hadley. Je croyais qu'on était 9 ou 10, mais en 1955, on était bien 200, peut-être plus, à croire ce qu'on racontait. Alors ouais, si vous me demandiez de répondre par oui ou par non pour savoir si j'essaie de vous parler d'un homme ou d'une légende qui s'est faite autour d'un homme comme une perle autour d'un petit grain de sable, je devrais dire que la réponse est quelque part entre les deux. Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'Andy Dufresne ne me ressemblait guère ni à aucun de ceux que j'ai vus depuis que je suis dedans. Il s'est amené avec $500 fourrés dans sa poche arrière, mais je ne sais comment ce fils de pute s'est arrangé pour apporter aussi autre chose. Le sentiment de sa propre valeur, peut-être. L'idée qu'en fin de compte, il serait gagnant. Ou peut-être n'était-ce qu'une sensation de liberté, même derrière ses foutus murs gris. Une sorte de lumière intérieure qu'il trimbalait avec lui. Je ne l'ai vu perdre cette lumière qu'une fois, et cela aussi fait partie de cette histoire.